L'épître d'aujourd'hui est tirée du prophète Isaïe, chapitre 60. Lève-toi, resplendis Jérusalem, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur et l'on verra sa gloire en toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Toute cette foule assemblée vient vers toi. Elle te viendra des fils et des filles de près. Et de loin. Alors tu connaîtras l'abondance. Ton cœur sera ravi de joie et d'admiration à la vue des peuples de la mer se tournant vers toi et la force des nations venant à toi. Tu seras comme inondé par les troupeaux de chameaux, couverte par les dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront offrir l'or et l'encens, chantant les louanges du Seigneur. On se lève pour l'Évangile, selon saint Matthieu. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem, disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Dans cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui, rassemblant tous les princes, les prêtres et les scribes du peuple, il s'enquit d'eux où devait naître le Christ, et lui dirent à Bethléem de Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certainement le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant pris les mages en particulier, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit: Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie, et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis offrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Donc pour les retraites, attention, la première retraite est pleine, retraite de Semaine Sainte. Deuxième retraite, celle du 25 avril au 30 avril, je crois que j'ai encore une ou deux places. Ça remplit très vite, Deo gratias. Les autres retraites, par contre, j'ai de la place. Donc encore une fois, s'il vous plaît, pour ceux surtout qui m'écoutent sur Internet et qui veulent s'inscrire pour les retraites, n'attendez pas le dernier moment pour que je puisse m'organiser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je voudrais continuer cette méditation sur les événements de la naissance, autour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'arrivée des mages. Donc, ils vont apporter avec eux ces trois cadeaux symboliques, l'or, l'encens et la myrrhe. Et tous les pères de l'Église, il y a une uniformité chez les pères, vous savez que quand tous les pères de l'Église enseignent la même chose, l'Église couvre cette interprétation de son infaillibilité. Et tous les pères expliquent que l'or représente la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, l'encens sa divinité et la myrrhe son humanité souffrante. Alors, toute une série de points qui me semblent très importants, qui expliquent bien les pères. Je pense que le premier point à bien comprendre, c'est le fait que nous sommes tous obligés de venir offrir à notre Seigneur l'or, l'encens et la myrrhe. Il ne faut pas croire que seuls les mages ont donné ces trois dons. Enfin, Dieu a un droit strict de recevoir de chacune de ses créatures spirituelles, comme les anges et les hommes évidemment aussi. Le bon Dieu a un droit strict, puisque nous avons une âme, d'exiger de nous l'or, l'encens et la myrrhe. Et je dirais un catholique qui ne voudrait pas donner à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe errerait gravement dans la foi. Le premier point qui me semble très important, je vais essayer de développer. Le deuxième point qui est tout aussi important, c'est le fait que je reprends exactement mon point. Que les trois dons, c'est ça, les trois dons sont inséparables. On ne peut pas accepter quelqu'un qui, par exemple, les pères de l'Église insistent lourdement là-dessus dans les leçons du bréviaire. Les pères de l'Église insistent sur le fait qu'il n'est pas question de donner simplement ce qu'on veut. Il y a beaucoup de petits malins qui vont dire, moi je veux bien donner la mire, ça ne me gêne pas trop. Notre Seigneur Jésus-Christ soit mort, souffrant, très bien. Même certains accepteraient de donner l'encens qui représente la divinité, à condition que Dieu soit au ciel, sur son petit paradis là-haut, derrière les 9e nuages, ça ne gêne personne. Mais ils ne veulent pas donner l'or. Pourquoi? Parce que l'or représente la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ils n'en veulent pas. Or, les pères de l'Église expliquent très bien, on va travailler un petit peu là-dessus ensemble pendant ce sermon, les pères de l'Église expliquent très bien que tous les dogmes de foi sont liés. Donc quelqu'un qui nierait, qui refuserait de donner un des dons, en fait refuse les deux autres dons. C'est-à-dire que si par exemple, pour reprendre l'exemple que je viens de donner, si je refuse de donner un autre, je prétends reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme homme des douleurs qui va à la croix, comme Dieu, mais que je ne veux pas lui donner la royauté sociale, en fait je le refuse comme Dieu. Alors essayons de développer un petit peu ces points qui sont très importants chez les pères, ils en parlent pratiquement tous. D'abord, voyons un peu l'or. Pourquoi est-ce que les rois mages ont donné l'or? Et encore une fois, il ne faut pas croire que seuls les rois mages ont donné l'or. Les bergers aussi ont donné symboliquement l'or, l'encens et la myrrhe. Ils n'ont pas donné comme les rois mages physiquement une cassette d'or, une cassette de myrrhe, une cassette d'encens. Mais ils ont reconnu dans cet enfant, nouveau-né, enveloppé de l'ange dans la crèche de Bethléem, le Messie à venir. Le Messie qui était annoncé. Et donc ils ont reconnu dans cet enfant l'humanité souffrante, la divinité et la royauté. Donc ils ont donné par leur foi l'or, l'encens et la myrrhe. D'abord, nous sommes tous, moi le premier, nous sommes tous, en tant que catholiques, tenus de donner l'or. C'est-à-dire, nous sommes tenus de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi. Et pas simplement comme roi au ciel, parce que ça gêne personne. L'Église catholique a toujours enseigné, je vous l'ai souvent déjà dit, parce que c'est la grande encyclique du pape Pie XI de 1925, Quas Primas. L'Église catholique a toujours enseigné que nous voulons en tant que catholiques, et c'est tout le travail apostolique de l'Église au cours des siècles, nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme roi dans la société. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Et on le voit très bien aujourd'hui, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus reconnu comme roi de la société, quelqu'un qui va venir prendre la place, et c'est quelqu'un qui vient prendre la place, c'est quelqu'un de pas très sympathique, à savoir le démon lui-même. Donc à partir du moment où je suis catholique, je dois donc donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ et lui reconnaître sa royauté sociale. J'insiste beaucoup sur le deuxième point parce que c'est ça qui est nié aujourd'hui, partout. Pas simplement dans le gouvernement français qui nie ça à longueur de journée par le laïcisme. Le laïcisme, c'est quoi? Le laïcisme, c'est le rejet de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. On tolère notre Seigneur Jésus-Christ et son pouvoir au ciel, éventuellement au tabernacle et dans la chapelle, mais surtout pas à l'extérieur dans les lieux publics. Or, quand je donne l'or à notre Seigneur Jésus-Christ, je reconnais qu'il est roi de la société. C'est ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles, d'envoyer des missionnaires partout. Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres? Allez, prêchez, baptisez. C'est soit ça la royauté sociale. Pourquoi est-ce que vous croyez que les apôtres sont partis dans le monde entier pour se faire couper le cou? Ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Ils sont partis se faire couper le cou dans des souffrances épouvantables. Saint Barthélemy, il a été dépecé vivant, je ne sais pas si vous voyez, comme les 5 quarts d'heure a passé. Pourquoi ils ont fait ça? Pour prêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour chasser les barbares, pour chasser la barbarie, pour chasser toutes ces lois épouvantables qu'il y avait à l'époque et qui sont revenues aujourd'hui en 2022, et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, le pape Pie XI explique une deuxième conséquence qui est très importante, qu'il ne faudrait peut-être pas oublier. C'est que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ exige aussi que notre Seigneur Jésus-Christ ait un contrôle de nos cœurs, de notre intelligence et de notre volonté. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est roi socialement, il veut commencer par être roi des catholiques, c'est évident. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos cœurs, roi de nos intelligences, roi de nos volontés. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que puisque notre Seigneur Jésus-Christ est roi de mon cœur, j'ai pas le droit d'utiliser mon cœur comme je veux. J'ai pas le droit d'aimer qui je veux, quand je veux, comme je veux. Le bon Dieu a donné une règle pour l'usage de nos passions, pour l'usage de notre cœur. On a le droit d'aimer les choses à condition que ces choses ne soient pas pour nous des obstacles pour notre salut. Rappelez-vous le principe et fondement. Pas plus que, pas plus que de Saint-Ignace au début des exercices, que j'ai le droit d'utiliser les créatures qui sont autour de moi, autant que, pas plus que, dit Saint-Ignace. Ça veut dire quoi? Autant que ces créatures m'aident à aller vers le ciel, vers Dieu, et si ces créatures sont pour moi un obstacle, je dois couper avec ces créatures. Deuxième chose, dit le pape Pie XI, cette royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ entraîne un contrôle de mon intelligence. J'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon intelligence, contrairement à ce que racontent les gens du monde moderne. Dans l'Église moderne, dans le monde moderne, ils disent « je fais ce que je veux de mon intelligence ». Non ! Notre intelligence, on ne fait pas ce qu'on veut avec son intelligence, puisque notre intelligence nous a été donnée pour découvrir le vrai. Donc je dois utiliser mon intelligence pour découvrir ce vrai, utiliser les règles, le mode d'emploi que le bon Dieu nous a donné avec l'intelligence. Pareil pour la volonté. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Ah, mais je suis libre. Oui, évidemment, vous êtes libre de conduire à gauche si vous voulez, de prendre l'autoroute dans le mauvais sens. Mais ça va vite y avoir des conséquences assez bruyantes et assez fracassantes, c'est moins qu'on puisse dire. Vous voyez, ça c'est la première chose. Je suis obligé de donner l'or. Et ça ne suffit pas. Je dois donner aussi l'encens. Ça veut dire quoi donner l'encens? Ça veut dire que je suis obtenu en tant que catholique, non seulement de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, c'est l'enseignement de l'Église catholique, mais aussi de reconnaître bien sûr comme Dieu. Et il est roi parce qu'il est Dieu. Dieu fait homme. Et donc il y a un lien entre les deux. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, est roi, mais est aussi Dieu. Je dois le reconnaître comme Dieu. Et donc Dieu étant, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, a le droit d'exiger de ses fidèles, de ses créatures, puisqu'il est notre créateur et notre rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ a le droit strict d'exiger cette adoration qu'on appelle le culte de l'atrie. Le culte de l'atrie, c'est le culte d'adoration. Le premier des cultes qui est dû à Dieu, c'est le culte d'adoration. Rappelez-vous les quatre fins de la messe. L'adoration, la propitiation, le culte impétratoire et le culte eucharistique, ça veut dire quoi? Je suis tenu de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, donc je dois l'adorer. Je dois lui demander les grâces dont j'ai besoin. Je dois aussi lui rendre grâce pour toutes les grâces que j'ai reçues. Et je dois aussi lui rendre un culte propitiatoire. Ça veut dire que j'utilise la Sainte Messe et la vie de prière en général pour me rendre Dieu propice. La prière ouvrant le cœur, surtout évidemment la prière la plus importante de l'Église catholique, à savoir le Saint-Sacrifice de la Messe, qui est la prière par excellence donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'on a compris ces choses-là, on comprend beaucoup de choses. Et l'or et l'encens, ça ne suffit pas, il faut aussi la myrrhe. Les pères de l'Église expliquent, si je veux bien donner l'or et l'encens, mais que je ne veux pas donner la myrrhe, je donne avec la main gauche l'or et l'encens, avec la main droite, je reprends ce que je viens de donner à notre Seigneur Jésus-Christ parce que je refuse la myrrhe. Ça veut dire quoi, refuser la myrrhe? La myrrhe, c'est le symbole de l'humanité. La myrrhe était un parfum qui était utilisé par les anciens pour enterrer les morts, empêcher la putréfaction des cadavres. Eh bien, la myrrhe représente l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et représente l'esprit de pénitence. Pourquoi est-ce que les gens modernes ne veulent plus donner la myrrhe à notre Seigneur Jésus-Christ? Et il va bien que notre Seigneur Jésus-Christ soit mort sur la croix, ça ne les gêne pas trop. Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ leur demande de participer à cette mort sur la croix par la vertu de pénitence, il n'y a plus personne. La pénitence est donc obligatoire pour tous les catholiques, précisément parce que nous devons donner à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons lui donner la myrrhe. Donc il faut vraiment se poser ces questions, est-ce que je donne tous les jours à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens, la myrrhe? Est-ce que je le reconnais comme Dieu en lui donnant l'encens? Est-ce que je le reconnais comme homme de douleur sur la croix avec le mystère de la rédemption en lui donnant la myrrhe? Mais est-ce que je le reconnais aussi comme roi? Socialement parlant, est-ce que j'œuvre pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société en lui donnant l'or? Et c'est là le début de tout. Qu'est-ce que c'est qu'un libéral? Et je sais qu'un catholique libéral, ce libéralisme catholique ou catholicisme libéral, c'est la même chose, qui a été condamné par l'Église. C'est ceux qui ne veulent pas donner les trois choses, justement. Un libéral, c'est quelqu'un qui veut bien donner un des trois dons, ou deux, mais pas les trois à la fois. Il faut bien comprendre une chose, c'est tout ou rien. Ou je donne les trois dons, ou je donne rien. On ne peut pas se dire, écoutez mon Dieu, je vous ai donné l'or et l'encens, c'est déjà pas mal. Contentez-vous de ce que je vous ai donné, remerciez-moi, parce que je vous ai quand même donné, dans ma gentillesse, je vous ai donné et concédé l'or et l'encens, et la myrrhe. Ah, la myrrhe non, parce que l'esprit de pénitence, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'il va dire notre Seigneur Jésus-Christ? C'est là où il y aura, si vous relire saint Matthieu, éloignez-vous de moi, maudit. Pourquoi? Parce que j'ai refusé. J'ai refusé la myrrhe. Ou alors, je veux bien donner la myrrhe et l'encens, mais alors, pas question. La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est des trucs du Moyen-Âge. Aujourd'hui, en 2022, je n'avais pas question. Éloignez-vous de moi, maudit aussi, parce que vous refusez ce règne social. Ou je veux bien donner l'or, je veux bien donner la myrrhe, mais l'encens, pas question. Vous prétendez que je suis roi, vous prétendez que je suis mort pour vous sur la croix, mais vous refusez de me reconnaître comme Dieu, vous refusez de m'adorer. L'adoration n'est pas quelque chose de facultatif. Il ne faut pas croire qu'au ciel, les anges, le matin, ont le droit de choisir en se levant, aujourd'hui je vais adorer notre Seigneur, oui, plus ou moins, on va voir, ça va dépendre de mon humeur. Il n'y a pas question. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec ceux qui ont refusé d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il y en a un qui s'est levé au début de l'histoire de la création, quand il y a un ange qui s'est levé en disant « Je ne servirai pas », ça s'est très mal fini pour lui. Le bon Dieu ne lui a pas dit, bon, écoutez, prenez une bonne nuit de sommeil, parce que la nuit de sommeil, ça va calmer un peu tout ça, et puis on en rediscutera demain, on va discuter un peu avec les syndicats des anges et tout ça. Pas question, qu'est-ce qui s'est passé dehors? Dehors, non seulement celui qui s'est dressé pour dire « je ne servirai pas », mais tous ceux qui l'ont suivi, un tiers des anges, jetés en enfer pour ça. Création de l'enfer pour punir cette révolte. C'est ça le drame du monde moderne. Le drame du monde moderne, c'est la révolte de l'homme qui se révolte contre Dieu. Je ne servirai pas. Alors, mes bien chers frères, il faut demander, comprendre ces deux points qui sont, à mon avis, extrêmement importants à expliquer. D'abord, que tous les hommes sont tenus de donner l'or, l'encens et la myrrhe. Deuxième point, que tous les hommes doivent donner les trois choses. Et si je ne donne qu'un ou deux de ces trois dons, je ne donne rien. Pourquoi on ne peut pas être catholique à 90%? Je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est quelque chose que les gens modernes ont un mal fou à comprendre. Les gens vont dire, écoutez, monsieur l'abbé, je suis catholique à 90%, c'est déjà pas mal. C'est mieux quand même d'être catholique à 90% que d'être catholique à 5%. Comprenez, moi je crois à tous les dogmes de la foi, sauf un ou deux qui me gênent un peu, alors ceux-là, je mets la poussière sous le tapis, comme on dit, et je ne m'en occupe pas. Mais le simple fait que vous niez, qu'un catholique puisse nier un ou deux dogmes de foi, ça prouve qu'il dit au bon Dieu, écoutez mon Dieu, je vous aime bien, vous êtes le bon Dieu, vous êtes le roi des rois, mais sur un ou deux points, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes trompé. Si notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, peut se tromper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, pardi. Et comme les gens qui disent, oui, l'Église catholique, c'est très beau, mais sur certains points, vous comprenez, les dogmes de foi du Moyen-Âge, les dogmes de foi du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant les temps sont passés, on est dans un siècle de laïcisme, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, moi j'accepte la divinité, j'accepte sa mort sur la croix, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, pas question. Vous comprenez, je suis quand même un catholique, surtout, sauf la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le simple fait que vous niez la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ça entraîne quoi? Ça entraîne que vous n'êtes pas catholique. Parce que quelqu'un qui n'est pas catholique à 100% est un catholique qui n'est plus catholique. C'est déjà un hérétique. C'est ça le drame. Le drame, c'est qu'une fois qu'on a ouvert dans nos âmes, dans nos intelligences, dans notre volonté, cette petite fissure qui fait qu'on dit au bon Dieu, vous vous êtes trompé sur un point, parce que moi j'estime mieux savoir que vous ce qu'il faut faire. L'Église s'est trompée pendant des siècles et des siècles, et moi maintenant j'ai décidé de faire les choses de façon différente. On nie la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, et on rejette l'Église. On peut expliquer ces choses-là pendant des heures, tellement c'est important. Et on le voit très bien dans toutes les lectures, c'est dans les lectures de matine. Le père de l'Église, il y a des lectures extraordinaires, Saint Grégoire le Grand, Saint Léon le Grand aussi, justement, qui explique très bien ces choses-là dans les matines que le prêtre lit pour la fête de l'Épiphanie. Il y a d'autres points qui me semblent très importants. Regardez par exemple aussi un autre point que je voudrais expliquer rapidement, c'est l'étoile. L'étoile mystérieuse qui est apparue pour guider les anges. Vous croyez que l'étoile apparaît que pour les trois rois mages? Vous croyez qu'il n'y a qu'eux qui ont été guidés vers la crèche par les rois mages? Les pères de l'Église expliquent justement que chacun est guidé en fonction de ce qu'il a reçu. Donc les pères de l'Église expliquent que les rois mages étaient des païens. Donc ils ont été guidés par quelque chose de matériel qu'ils pouvaient cerner, qu'ils pouvaient comprendre, une étoile. Par contre, les bergers, eux, ils croyaient au Messie. Ils avaient la foi. Et donc, ils n'ont pas été guidés par quelque chose de matériel, ils ont été guidés par quelque chose de largement supérieur, un ange. C'est un ange qui a guidé les bergers vers la crèche, mais ce n'est pas un ange qui a guidé les rois mages vers la crèche. Et nous, c'est pareil. Nous sommes catholiques et on se remet, on suit, si vous voulez, ce que nous envoie le bon Dieu pour nous guider vers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que de temps en temps, on a envie de faire les petits détours à droite et à gauche, parce que la ligne droite vers la crèche, ça ne nous plaît pas trop. Alors, le bon Dieu nous envoie une étoile qui peut être différente. Ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être n'importe quoi. La plupart d'entre vous, vous êtes des convertis, des hauts gracias. Regardez comment le bon Dieu vous a converti, comment le bon Dieu nous a tous convertis. Il nous a convertis parce qu'il a utilisé quelqu'un, quelque chose, une personne, un élément, matériel ou non, qui nous a amené à nous poser les questions qu'il fallait et à reconnaître la foi catholique. Cette semaine, j'ai encore reçu la visite de trois jeunes, justement, encore, qui cherchaient la foi catholique et qui l'ont trouvée avec la grâce du bon Dieu. Comment ils sont venus ici? Moi, j'en sais rien. C'est pas moi qui suis allé chercher par la peau du cou. Ils sont venus, vous savez, on a vu vos vidéos sur Internet, on vient, on a besoin de faire une bonne confession. Très bien, vous êtes les bienvenus. Pourquoi ils sont appelés? Parce qu'eux ont eu l'étoile, eux ont eu l'ange qui les a amenés ici en disant, voilà, devant le Saint-Sacrement, c'est là où vous trouverez la vérité. Mais attention, les conditions. Hein. Et tout à fait à la fin de l'évangile, qu'est-ce qu'il est dit? Que les rois mages retournèrent chez eux par un autre chemin. Ça veut dire quoi? Et là encore une fois, il faut regarder ce que disent les pères de l'Église sur le sujet dans les lectures de matine. L'autre chemin, ça veut dire qu'une fois que j'ai trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le bon Dieu m'a envoyé l'étoile, il m'a envoyé l'ange qui m'amène à la crèche, je suis venu m'agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai offert l'or, l'encens, la myrrhe, très bien. Il ne s'agit pas que je retourne chez moi en disant, bon, maintenant, je vais offrir l'or, l'encens, la myrrhe, je vais faire la myrrhe, je peux aller faire la sieste tranquillement et jouir de la vie chez moi. Non, il faut rentrer chez soi par un autre chemin. Et on voit très bien, c'est les rois mages. L'ange leur a dit, attention, retournez surtout pas voir Hérode, parce que Hérode veut couper le cou à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont pris un autre chemin. Et cet autre chemin, ça les a menés où? Vers quel lieu l'autre chemin a mené les rois mages, qui étaient encore des païens, attention. Dieu a envoyé Saint Thomas lui-même, Saint Thomas apôtre, qui est allé baptiser les trois rois mages. Et ils ont donné leur vie, ils ont commencé à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont prêché partout, ils n'étaient pas encore chrétiens, ils ont déjà prêché l'adoration. Ils ont expliqué pourquoi ils ont donné l'or, l'encens et la myrrhe. Ils sont morts martyrs, tous les trois. Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar. Mais c'est la même chose pour nous. Nous aussi, il faut qu'on change de chemin. Le bon Dieu nous demande, dans certains cas, changer telle chose importante dans ma vie, telle autre chose, parce que ça déplaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire, se poser cette question tous les jours au bon Dieu. Mon Dieu, j'ai prévu de faire telle chose aujourd'hui, prendre tel chemin, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Il ne faut pas dire, moi ça me plaît à moi, je prends ce chemin. Attendez. Est-ce que dans ce chemin que j'ai choisi aujourd'hui, est-ce que je suis capable de rester en état de grâce? Est-ce que je suis capable de plaire au bon Dieu en restant sur ce chemin que je me suis choisi? Donc avant de choisir un chemin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au bon Dieu, mon Dieu, est-ce que ça vous plaît? C'est ça le drame aujourd'hui. Pourquoi la plupart des gens ont perdu la foi? Parce que la plupart des gens ont perdu la foi parce qu'ils choisissent des tas de choses. Je vais faire telle grande école, je vais faire telle chose et telle chose, je vais faire telle chose et telle chose, dans telle condition et telle condition, et sans être encore perdu. Et pas une seule seconde, ils sont arrêtés pour s'agenouiller devant le grand patron en lui demandant, au fait, ça vous plaît mon petit plan là? J'ai prévu telle et telle chose, est-ce que ça vous plaît? Et parfois, c'est rare, mais les gens de temps en temps nous en parlent. Je me pose la question, mais vous avez prévu de faire telle chose, vous avez prévu d'aller dans telle université, vous avez prévu de faire telle grande école, vous allez rester en état de grâce pendant combien de secondes dans cette grande école? Vous allez faire tel boulot, vous allez faire telle grande chose avec l'informatique de je ne sais pas trop quelle grande école. Est-ce que vous êtes capable de rester en état de grâce là-dedans? Combien de jeunes que j'ai connus, vous en avez connus aussi, qui sont partis dans les grandes écoles, qui étaient des braves catholiques, des bons catholiques à 18 ans après le bac, sont partis dans les écoles, 4-5 ans de grande école, fini, terminé. Ils sont devenus des païens. Ah, ils ont un gros salaire, bien sûr. Que sert à l'homme de gagner l'homme, de gagner le monde, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Que sert à l'homme de gagner le monde si j'ai perdu la foi, s'il a perdu son âme? Oui, donc c'est important de comprendre ces choses-là. Le bon Dieu, en ce temps de Noël, nous demande de faire un peu un examen de conscience. Est-ce que le chemin que j'ai choisi, est-ce qu'il est possible pour moi de rester sur ce chemin, de rester en état de grâce? N'oubliez pas qu'à la fin du temps après l'épiphanie, il y a 5 dimanches après l'épiphanie, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, comment le bon Dieu va commencer à se rappeler notre bon souvenir? Qu'est-ce qu'il nous donne? Septuagésime, sexagésime, quinquagésime. Déjà les ornements violets. Attention, la croix arrive. Et puis après la septuagésime, sexagésime, quinquagésime, mercredi des cendres. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et la passion, mort sur la croix. Alors, mes bien chers, demandons toutes ces grâces à notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que c'est par la Sainte Vierge Marie que nous obtenons ces grâces. C'est elle, encore une fois, je vous l'ai souvent dit, qui est la portière de la crèche. C'est elle qui est la portière du paradis. C'est elle qui nous amène à la croix. C'est pour ça que les pères de l'Église vont toujours comparer la Très Sainte Vierge Marie justement à l'étoile. Une des étoiles, c'est la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie est l'étoile qui nous guide d'abord à la crèche, puis de la crèche qui va nous guider au sommet du Golgotha, au Vendredi Saint, et du sommet du Golgotha à la joie de la résurrection au paradis. Rappelez-vous les 3 étapes, la crèche, le Golgotha, le paradis. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, mes bien chers amis, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses-là, surtout dans ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles, à cause de cette dictature sanitaire qui nous est de plus en plus imposée. Nous allons tous avoir des grosses difficultés. Beaucoup de gens, je suis en contact avec pas mal de gens déjà, qui ont perdu leur travail par exemple à cause de cela, qui ne sont pas sûrs de pouvoir en retrouver un. Et qui ont parfois femmes et enfants, et qui ont perdu leur travail à cause de tout cela, eh bien, le bon Dieu a promis que il ne nous laisserait pas tout seul. Vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous guider, de nous aider. Elle nous aime, nous sommes ses enfants, n'oublions pas. Elle n'est pas simplement mère de Dieu, elle n'est pas simplement mère du Christ, elle est aussi notre mère. Rappelez-vous que la dernière chose qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ avant de mourir, c'est quoi? Nous confier sa mère. Il a dit à Saint Jean, fils, voici votre mère. Et à partir de ce jour-là, nous dit l'Évangile, Saint Jean l'a pris chez lui. Alors prenons la Très Sainte Vierge Marie dans notre cœur, gardons-la dans notre cœur pour que nous puissions rester sur le bon chemin et offrir tous les jours à notre Seigneur Jésus-Christ et l'or et l'encens et la myrrhe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.